Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Nous retrouvons pour cette émission Bernard Michon, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Ménard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bernard, je te laisse présenter notre invité.
Éric Ménard est formateur en histoire-géographie à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, ce que l'on appelle les INSPE, de l'Université Paris-Est-Créteil. Je précise pour nos auditeurs que les INSPE ont remplacé récemment les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, ce que l'on appelait les ESPE, les ESP, et qu'elles avaient elles-mêmes succédé aux IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres. Notre invité intervient donc auprès des enseignants en formation, principalement ceux du premier degré, donc de l'enseignement primaire. Éric Ménard s'intéresse depuis ses études universitaires à l'histoire des sociétés antillaises et participe depuis sa fondation aux travaux de l'Association pour l'étude de la colonisation européenne. Il est par ailleurs membre du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavages, le CIRESC. Il a également été membre du Comité pour la mémoire de l'esclavage, entre 2004 et 2009. Parmi ces publications, je signale aux auditeurs que notre invité est co-auteur de plusieurs manuels scolaires et d'ouvrages consacrés à la didactique de l'histoire et de l'éducation civique. Et puis, Éric Ménard a co-écrit avec l'historienne Catherine Kokrividrovitch un livre intitulé « Être esclave, Afrique-Amérique, 15e-19e siècle », publié aux éditions La Découverte. Avec lui, nous allons nous intéresser à la manière dont la traite des Noirs et l'esclavage colonial sont enseignés.
Merci Bernard. Éric Ménard, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous dire dans quelle classe les programmes prévoient d'aborder ces thématiques liées à la traite des Noirs et à l'esclavage colonial ?
Alors, si on prend les programmes actuels, c'est-à-dire ceux qui ont été publiés en 2015, la première fois où les élèves ont rencontré, si j'ose dire, l'histoire des traites négrières et de l'esclavage, c'est en CM1. Dans le thème 2, c'est-à-dire le temps des rois. Ensuite, ils retrouveront cette histoire en quatrième. Et enfin, ils la retrouveront, pour ceux en tout cas qui iront au-delà du collège, ils la retrouveront en seconde, soit dans l'enseignement professionnel, soit dans l'enseignement général.
Éric Ménard, le comité pour la mémoire de l'esclavage auquel vous avez appartenu, qui a été créé à la suite de la loi dite Taubira, adoptée en 2001, qui est devenu ensuite le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, a joué un rôle pour que ces sujets trouvent une place plus importante dans les programmes scolaires. Est-ce à dire que ces questions n'étaient pas enseignées auparavant ?
Elles l'étaient très certainement. Alors ça, c'est un des grands problèmes quand on s'intéresse à l'éducation, c'est qu'il est assez facile d'avoir les programmes. Il n'est pas beaucoup plus difficile de consulter les manuels scolaires, mais il est toujours très difficile de savoir ce qui se passe vraiment dans les classes. Alors, pour dire les choses autrement, noir sur blanc, sans aucun jeu de mots, pour la première fois, le thème apparaît explicitement dans les programmes 2002 pour l'école primaire en CM1. C'est ce qu'on appelle les programmes Joutard, qui ont été publiés à l'époque où c'était Jack Lang qui était ministre. Donc, juste après la loi Taubira, les premiers programmes qui explicitement inscrivent ces questions dans les programmes sont ceux de l'école élémentaire. On retrouvera en 2008 cette question inscrite là encore explicitement dans les programmes du collège. C'est alors deux questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse, puisque justement il n'y a pas d'éléments précis. Il va de soi que, comme d'autres questions sensibles, les professeurs, et notamment les professeurs d'histoire dans le secondaire, abordaient l'histoire des traites et l'esclavage dans leurs cours, que ce soit avec le mercantilisme colbertien ou que ce soit avec l'abolition de l'esclavage en 1848. Ce qui est nouveau là, c'est que cette question apparaissant dans les programmes va donner lieu normalement à la conception par les enseignants de chapitres spécifiques. C'est-à-dire pas quelque chose où on évoque l'esclavage d'un point de vue européocentré, mais où l'on prend en compte les réalités dans les sociétés esclavagistes elles-mêmes.
Et quelles sont les grandes thématiques qui sont enseignées sur cette histoire ? Vous avez parlé du CM1, de la quatrième.
Les thématiques enseignées, je vous dis le vrai problème. Alors, il y a eu un travail qui a été fait il y a quelques années dans le cadre de FELU-INRP, Institut national de la recherche pédagogique sous la direction de Benoît Falaise, où il y a eu des enquêtes qui ont été menées pour voir ce qui se faisait dans les classes, pour aller vite. Je cite notamment les travaux de Sébastien Ledoux, qui participe à cette équipe. Dans le primaire, en tout cas de ce que l'on sait, très souvent, les collègues sont mal à l'aise avec cette question pour laquelle ils n'ont pas été vraiment formés. Et ils abordent l'esclavage sous un angle, souvent d'ailleurs en relation avec l'éducation civique, qu'on appelle maintenant l'enseignement moral et civique, avec l'éducation civique, avec une vision moralisante pour dire ce que, évidemment, avec lequel je suis en accord, que ce n'est pas bien l'esclavage, que c'est évidemment contraire aux fondamentaux, aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Toutefois, c'est un peu court. Dans le secondaire, on peut penser que nos collègues ont travaillé la question. Alors, pour ceux qui ont le plus travaillé la question, justement en prenant en compte les apports de l'historiographie, notamment dans le domaine de ce qu'on appelle l'agency, l'agentivité, c'est-à-dire le fait que les esclaves ne sont pas que des victimes passives, mais qu'ils ont leur propre stratégie d'accommodement, de résistance, voire de révolution dans le cadre de ce qui s'est passé dans la colonie française de Saint-Domingue devenue Haïti. Si vous voulez, c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a un écart considérable très fréquemment, et il ne s'agit pas de jeter la pierre à des collègues, on ne veut pas être spécialiste de tout. Il y a un écart souvent considérable entre les productions historiographiques et ce que l'on retrouve dans les classes. Moi, les seuls éléments que j'ai, c'est pour le primaire comme pour le secondaire, c'est essentiellement les manuels. Mais que font nos collègues des manuels? C'est très variable.
Et vous intervenez justement en amont, puisque vous formez les futurs professeurs des écoles. Comment vous les formez? Comment vous abordez ces thématiques avec eux?
Je vais être un peu rapide et un peu, non pas brutal, mais clair. Quand j'ai débuté, ça fait maintenant, au siècle dernier, j'étais formateur à l'UFM. À l'époque, j'avais 60 heures avec les futurs enseignants, hein, ceux qui venaient de réussir le concours et qui étaient en formation professionnelle. Là, cette année, je les vois 15 heures ou 9 heures. Ils sont à mi-temps en classe et voilà, je réponds à la demande immédiate. C'est-à-dire que pour dire les choses clairement, j'ai un groupe que je vois 9 heures, je travaille que 3 heures en histoire, 3 heures en géographie, 3 heures en EMC. C'est pas une, malgré l'intérêt que j'apporte à cette question, c'est pas une question qu'on va considérer comme prioritaire. Alors je peux l'aborder à la marge, mais il n'y a pas de véritable formation sur ces questions, en tout cas dans le cadre des futurs enseignants du premier degré. L'autre biais qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a les étudiants fonctionnaires stagiaires doivent réaliser un mémoire de recherche, un mémoire d'initiation à la recherche. Et certains ou certaines d'entre eux prennent cette question. Là, cette année, j'ai 3 étudiants sur une population de 2000 étudiants environ qui travaillent sur la question de l'esclavage dans l'Académie de Créteil. Donc, vous voyez, je ne tiendrai pas un propos totalement enthousiaste et enthousiasmant sur cette réalité.
Pour qualifier ces questions, Éric Ménard, on utilise parfois l'expression de « questions socialement vives ». Qu'est-ce que cela signifie ?
Une question socialement vive, on parle aussi parfois de questions sensibles, c'est une question dans laquelle se mêlent étroitement et de façon complexe d'ailleurs des enjeux qui sont des enjeux scientifiques, historiographiques, comme toute question, mais où à ces enjeux historiographiques et scientifiques se mêlent des enjeux mémoriels et aussi des enjeux qui sont des enjeux civiques. Je pense que parler de questions sensibles, même si on parle maintenant de questions socialement vives, me semble plus explicite. C'est des questions sur lesquelles d'un point de vue pédagogique, hein, des questions sur lesquelles nos collègues se sentent d'autant plus fragiles qu'ils savent que leurs élèves, pour des raisons qui sont liées par exemple à des traditions familiales, risquent de les interpeller ou risquent d'avoir des points de vue parfois fort tranchés qui risquent, en tout cas ça c'est la représentation des enseignants, qui risquent de les déstabiliser, qui risquent de les interpeller. On a d'autres questions socialement vives. Par exemple, une des questions que l'on travaille très tôt avec en CM2, c'est la question, par exemple, du génocide des Juifs.
Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Éric Ménard. Et nous abordons aujourd'hui l'enseignement de la traite des Noirs et de l'esclavage colonial.
Alors, Éric Ménard, vous l'avez évoqué un peu dans la première partie de cette émission, mais vous êtes amené à former des jeunes enseignants stagiaires qui interviennent auprès de publics d'écoles primaires. Et la question qu'on peut vous poser, qu'on a envie de vous poser, c'est comment aborder une question comme la traite des Noirs et l'esclavage avec des enfants âgés d'une dizaine d'années, sans tomber, je dirais, dans ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée, l'esclavage, c'est pas bien, quoi. Quelles sont les approches, selon vous, à privilégier ?
Il me semble que pour cette question, comme pour d'autres questions que j'ai qualifiées, que nous avons qualifiées de sensibles ou de socialement vives, je pense qu'il faut à la fois transmettre à nos élèves, enfin, les initier, à la démarche de l'historien, leur transmission d'informations. Par exemple, je vais prendre un exemple qui m'a longtemps questionné. C'est la question des grands nombres. Globalement, on peut maintenant savoir, après 30 ans de travaux d'historiens, que environ 13 millions d'êtres humains ont été déportés des côtes africaines vers les colonies européennes. Il s'agit pour moi, comme pour d'autres nombres des grands crimes de l'histoire de l'humanité, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il s'agit bien évidemment pour moi qui suis prof d'histoire, et quand on s'adresse à des enfants, de leur transmettre cette connaissance. Toutefois, je me suis rendu compte, par ma pratique pédagogique déjà lorsque j'étais prof de collège, que ces grands nombres qu'il faut transmettre ne prennent pas nécessairement sens. Ils sont tellement considérables que même moi qui suis maintenant un adulte, j'ai du mal à me représenter ce que sont ces millions d'êtres humains. Et je pense qu'une des pistes, c'est une piste importante, me semble-t-il, c'est de pouvoir incarner, c'est-à-dire de donner des visages. Alors nous avons, pour l'histoire de l'esclavage, nous avons quelques récits qui certes sont des récits exceptionnels. Si je prends l'exemple des traites, par exemple, j'ai assez longtemps travaillé sur le récit publié en 1789 à Londres par Olaudah Equiano, qui a été un jeune homme déporté depuis l'Afrique vers les colonies britanniques. Et à la fin, après ce, Olaudah Equiano a écrit, et écrit très bien d'ailleurs, ses mémoires, et on a son portrait. Ça me permet, quand j'interviens dans les classes, à la demande de collègues, de, à travers le récit, ou un des extraits de récit d'Olaudah Equiano, de lui donner un visage. Et de me permettre à moi, comme à ses enfants, de se reconnaître dans l'humanité de cet individu. Et justement, de sortir d'une vision qui serait la vision d'une masse indifférenciée, certes victime de crimes et d'oppression particulièrement brutale, mais là, ça me permet d'entrer par ce biais-là dans un parcours, certes exceptionnel, mais dans un parcours d'un être humain dans lequel je peux me reconnaître. Autre piste, me semble-t-il, importante, c'est le lien avec la littérature. Littérature de jeunesse, il y a un certain nombre de choses qui ont été publiées de très bonne qualité dans le domaine de la littérature de jeunesse pour un public qui est, on va dire, de la tranche des 8-12 ans. La littérature de jeunesse, ça permet d'aborder l'aspect sensible. Je ne dis pas que le prof d'histoire est insensible, mais par définition, l'historien ou le professeur d'histoire met à distance. Or, il me semble important pour des enfants ou pour des adolescents encore très jeunes de pouvoir exprimer leurs ressentis. Et je pense qu'il est intéressant, alors c'est faisable dans le primaire puisque les enseignants sont polyvalents, c'est-à-dire qu'ils enseignent l'ensemble des disciplines, mais on peut aussi mettre en place des projets avec des collègues dans le cadre du collège, des collègues de lettres, des collègues de langue ou des collègues d'art plastique. Il me paraît intéressant, et un certain nombre de collègues le font, notamment dans le cadre du concours... excusez-moi.
La flamme de l'égalité, tu veux dire.
Oui.
Vas-y, reprends.
À quel moment ?
Quand vous voulez.
Quand vous voulez.
Donc, je reprends. Oui, le lien avec la littérature de jeunesse me paraît intéressant parce qu'il permet aux enfants d'exprimer les questions sensibles qu'ils se posent. Et souvent, je crois pertinent de partir d'une œuvre littéraire ou d'une œuvre d'art pour permettre aux élèves de se poser des questions, d'exprimer leurs réactions, y compris en termes de « c'est pas bien ». Ils ont raison de dire « c'est pas bien ». Donc d'exprimer ce dégoût, cette révolte, et de se poser des questions. Et là, je pense que la leçon d'histoire, le cours d'histoire, peut permettre d'apporter des éclairages complémentaires. Donc un lien intéressant. Et par ailleurs, un certain nombre de collègues, dans le cadre du concours La Flamme de l'Égalité, réalisent ce type de projet qui associe des enseignants de différents domaines disciplinaires.
Donc en partant du sensible pour arriver vers une histoire un peu plus distanciée, est-ce que vous avez des exemples concrets de projets menés pour illustrer vos propos que vous avez pu mener avec des classes ?
Alors, je n'ai pas à proprement parler mené des projets avec des classes. J'ai été membre des jurys, donc j'ai pu voir un certain nombre de projets. Il y en a un qui me paraît... Il y a un projet que je trouve très, très intéressant, qui n'a pas été, me semble-t-il, proposé dans le cadre du concours que je viens d'évoquer, qui est un projet qui a été mené à la Martinique par des élèves par des professeurs qui enseignent en collège. Et c'est un projet très intéressant qui a consisté à aller sur place voir des œuvres d'art contemporaines, faites par des artistes contemporains, qui évoquent la mémoire de l'esclavage. Par exemple, à la Martinique, dans la commune du Diamant, il y a une très belle œuvre d'un artiste contemporain. Et ce qu'ont fait les élèves, c'est qu'ils sont allés sur place pour voir ces œuvres, les photographier, s'intéresser, y compris exprimer ce qu'ils comprenaient de ces œuvres. Et ensuite, ils ont pu, comme ce sont des artistes contemporains, ils ont pu les rencontrer. Et là, je trouve que c'est tout à fait intéressant parce que justement, on est dans quelque chose qui me semble fécond dans ce rapport histoire-mémoire, où on a à la fois le professeur d'histoire j'allais dire qui fait son travail, c'est-à-dire qui donne aux élèves des informations historiques sur la question, mais qui montre encore comment ce passé peut être l'objet d'une réflexion ou de production artistique.
Éric Ménard, vous évoquiez tout à l'heure la littérature jeunesse. Pouvez-vous donner à nos auditeurs quelques exemples d'ouvrages qui pourraient être consultés ?
Alors, il y a quelques ouvrages très classiques auxquels on ne pense pas. Je pense par exemple à un roman qu'a écrit un jeune homme qui s'appelait Victor Hugo, Burg Jargal, qui se passe, c'est un soldat qui, à la veillée, un ancien soldat de l'époque napoléonienne, qui, à la veillée, raconte ce qu'il a vécu quand il était à Saint-Domingue, où un des personnages évoque très explicitement, même si c'est pas son nom, Toussaint Louverture. Donc ça peut être une entrée littéraire tout à fait. C'est pas par ailleurs un énorme ouvrage. Victor Hugo a écrit des œuvres beaucoup plus longues. C'était un ouvrage de jeunesse pour Victor Hugo. Je pense qu'on peut l'utiliser. Dumas a écrit aussi pour. Là, je parle des auteurs classiques. Il y a un certain nombre d'auteurs contemporains qui travaillent sur ces questions. Je pense notamment à un ouvrage très peu connu, malheureusement, parce que publié à La Réunion par une maison d'édition qui s'appelle La Paille en queue noire, qui est consacré aux marrons, et qui raconte... Alors là, c'est souvent cette démarche-là. C'est-à-dire qu'à partir... On utilise des récits ou des sources. Enfin, je parle des auteurs. Utilise des récits autobiographiques. Par exemple, celui d'Ola d'Aquiano a été souvent réutilisé dans un certain nombre d'ouvrages pour la jeunesse. On part donc de ces récits autobiographiques et on introduit de la fiction, ce qui est assez fréquent dans les théâtres de jeunesse, c'est-à-dire que c'est souvent à travers l'histoire d'enfants, enfants ou adolescents, lesquels les élèves eux-mêmes peuvent se reconnaître. J'ai travaillé aussi sur un autre ouvrage qui est avec des collègues en CM2, enfin des extraits. Alors parmi les ouvrages, là, j'évoquais des auteurs que l'on peut considérer comme classiques à travers, avec les exemples de Victor Hugo et de Dumas. Un ouvrage qui a été écrit par Evelyne Brizou-Pellen, qui là est un roman destiné à la jeunesse, qui s'appelle « Deux graines de cacao », raconte l'histoire d'un enfant qui vit à Nantes. Son père fabrique des chocolatiers et l'enfant découvre qu'en fait son père n'est peut-être pas son père. Et il y a une recherche des origines et cet enfant va partir à Saint-Domingue, devenu Haïti entre-temps, à la recherche de ses ascendants, de ses parents. Il monte sur le bateau et sur le bateau, en fait, on comprend vite que le bateau ne va pas aller directement à Saint-Domingue, mais qu'il va faire une escale sur les côtes africaines et que ce bateau est un bateau négrier. Et donc, c'est l'occasion pour Brizou-Pellen de raconter à travers le récit d'un enfant, 12-13 ans, de raconter cette traversée dans le cadre de la traite négrière qui est à l'époque illégale, mais qui, comme tout le monde le sait, a continué jusqu'aux années 1830 en partant des ports français.
Éric Ménard, vous avez fait allusion tout à l'heure à d'autres questions sensibles à travers le génocide juif de la Seconde Guerre mondiale. Quels sont les autres sujets délicats que vos jeunes collègues ont à traiter avec leurs élèves? Et comment éviter de tomber dans une forme de concurrence mémorielle?
Donc il y a un autre sujet très délicat qui est celui de l'enseignement du fait religieux. Et notamment dans les programmes, à travers le personnage de Louis IX, les croisades. L'islam a pratiquement disparu explicitement, en tout cas des programmes de l'école élémentaire. Les élèves le retrouvent en quatrième. Mais toutes ces questions qui tournent autour du fait religieux sont des questions complexes et qui, là aussi, mettent nos jeunes collègues, et je les comprends, dans des situations souvent complexes, compte tenu du fait que, là encore, ils ne sont pas nécessairement légitimes pour aborder ces questions qui sont des enjeux politiques actuellement majeurs. Donc, question sensible, le fait religieux. Question sensible, on l'a évoqué, le génocide. Autre question sensible, évidemment, la traite et l'esclavage. Je pense aussi qu'il y a une autre question sensible, qui est la question de l'histoire des migrations et de l'histoire de l'immigration après la Deuxième Guerre mondiale. Tellement sensible, d'ailleurs, que dans les projets de programme de 2015, cette question... Il y aurait dû y avoir un thème sur l'immigration en France depuis 1945 et que cette question a été supprimée. Donc on a des questions sensibles qui sont abordées à l'école.
Vous avez remarqué une évolution de ces questionnements par rapport aux faits sociaux qu'on peut, aborder ?
Toujours très difficile de répondre parce que malheureusement l'Institut national de recherche pédagogique a disparu. Et ce qui coûte le plus cher quand on fait de la recherche en éducation, c'est pas de consulter les programmes, ce que j'ai dit précédemment, et de consulter les manuels. Ça, c'est assez simple. ce qui coûte le plus cher, c'est d'avoir des équipes qui ont des protocoles et qui vont voir réellement ce qui se passe dans les classes. Ça prend beaucoup de temps. Benoît Falaise a dirigé plusieurs rapports, enfin plusieurs travaux de recherche qui ont donné lieu à des rapports sur l'histoire de l'immigration, sur l'histoire des traites, sur l'histoire du fait religieux. Ça prend plusieurs années. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Et ça nous manque particulièrement en France. C'est d'aller au-delà, d'entrer dans la boîte noire, c'est-à-dire de savoir ce que font les enseignants dans les classes et comment, selon les lieux, ils avancent ces questions. Je vais prendre l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure à travers l'article qu'a rédigé Sébastien Ledoux, qui a observé dans des classes de la région parisienne des leçons sur l'esclavage et les traites. Je vais très vite dans les conclusions. Il constate que dans les classes, on va dire de centre-ville, la question que posent les enfants, ce sont encore des enfants, ils ont 10 ans, à leurs enseignants, c'est comment avons-nous pu faire ceci à des Noirs ? Ou comment nos ancêtres ont-ils pu faire ceci à des Noirs ? Donc, ils se projettent, eux, comme étant descendants, éventuellement descendants, sinon biologiques, mais en tout cas, ils se projettent comme étant descendants des négriers ou des esclavagistes. Dans d'autres écoles plus diversifiées, la question que posent les élèves aux enseignants, c'est pourquoi nos ancêtres se sont-ils laissés faire ? C'est une vraie question. Mais comment, c'est une vraie question, la question c'est comment traiter de ces questions-là et quelle réponse apporter aux enfants. D'où, j'y reviens, l'hésitation que peuvent avoir certains de nos collègues à aborder des questions pour lesquelles la formation reste, la formation, y compris dès l'enseignement. Dès l'enseignement, ces questions ont longtemps été considérées comme marginales et on arrive à cette situation où, eh bien, nos collègues hésitent à les aborder parce que, non pas parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, mais parce qu'ils ne se sentent pas légitimes et parce qu'ils estiment qu'ils risquent d'être débordés sur des questions qui les inquiètent. Je ne le pense pas, parce que je pense que, après tout, quand on travaille sur la règle de l'accord du participe passé, ça se prépare, c'est nécessaire. Eh bien, une leçon sur les traites négrières et l'esclavage, ça se prépare aussi.
Plus largement, ce que vous dites de la formation des enseignants pose également, Éric Ménard, la question de la formation qu'ils ont reçue précédemment, alors dans l'enseignement secondaire, mais également dans l'enseignement supérieur. Quelle est la place de la traite des Noirs et de l'esclavage colonial dans l'enseignement universitaire ?
Alors cette place, si je prends mon parcours biographique, très rapidement, a évolué. Quand j'étais étudiant et que je voulais faire ma maîtrise à la fin des années 70, j'étais inscrit à la Sorbonne, à Paris 1. Et lorsque j'ai voulu travailler sur l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, un professeur de la Sorbonne, tout à fait remarquable au demeurant, m'a expliqué que je ne trouverais pas d'enseignant qui dirigerait une maîtrise. J'ai dit bien une maîtrise, je ne parle pas d'une thèse. Et on m'a envoyé à Vincennes, à Paris 8, où un spécialiste de la guerre d'Algérie a accepté de diriger ma maîtrise. Ce qui veut dire que dans les années 70, en région parisienne, il était très difficile de faire une maîtrise sur cette histoire. Au sens large, je voulais entrer par l'histoire des Antilles, mais évidemment, en travaillant sur l'histoire des Antilles, j'allais évidemment, et je le savais, rencontrer l'histoire de l'esclavage. Les choses ont évolué avec les chaires qui ont été créées à l'Université de Nantes. Une chaire qui a été, un poste qui a été ouvert à Paris 1 pour Frédéric Régent comme maître de conférence. L'Université d'Antiguyane. Mais finalement, on peut tout à fait faire ses études, y compris en histoire, et n'avoir jamais rencontré, ou de façon toujours anecdotique, marginale, cette histoire-là. Ce qui fait, alors je vais finir par une autre anecdote. Il y a quelques années, c'était après les programmes de 2002, je recevais les étudiants fonctionnaires stagiaires et j'en avais une centaine et je leur ai demandé s'ils avaient entendu parler de Louis XIV. Ils avaient tous entendu parler de Louis XIV. S'ils avaient entendu parler de Napoléon Bonaparte, ils avaient tous entendu parler de Napoléon Bonaparte. S'ils avaient entendu parler de Schœlcher, le nombre était déjà beaucoup plus limité, moins d'une dizaine. Toussaint Louverture, 4. Delgrès, 1, mais elle avait fait ses études à la Guadeloupe. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, par ailleurs, je suis revenu en boucle pour leur dire que ils n'avaient probablement pas entendu parler de Louis XIV comme le responsable, le signataire du Code Noir, et de Napoléon Bonaparte comme le restaurateur, si j'ose dire, de l'esclavage. Donc il y a une vraie ignorance, parce que cette question, à la différence du Second Empire colonial, qui a toujours été une question centrale dans notre enseignement, cette question a été marginalisée pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer, parce qu'elles sont assez complexes.
Bernard, pour terminer, pouvez-vous nous donner quelques références bibliographiques sur le sujet abordé aujourd'hui ?
Tout à fait, je voudrais indiquer à nos auditeurs deux ouvrages. Le premier, dirigé par Sylvia Marzagali, intitulé « Comprendre la traite négrière atlantique ». C'est un ouvrage qui a été publié au Centre régional de documentation pédagogique de Bordeaux et que l'on peut se procurer désormais sur le réseau Canopée. C'est le réseau de création et d'accompagnement pédagogique. Et puis le deuxième ouvrage, sous la direction de Philippe Charon, Commerce atlantique, traite et esclavage, 1700-1848, recueil de documents des archives départementales de Loire-Atlantique, publié aux presses universitaires de Rennes.
Merci. Merci Éric Ménard d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aux auditeurs qui nous suivent. Le mois prochain, nous recevrons Anne Caillot et Bruno Combes pour leur ouvrage intitulé « Les capitaines de Paimbœuf au temps du commerce avec les îles à sucre ». Belle fin de journée à tous. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.